Un testament, chapitre 2. Le baron Bromilski fut depuis lors très assidu dans la maison des deux dames. Il envoya comme interprète de son amour pour Varvara des bécasses, des perdrix, des lièvres, de beaux fruits, des robes, des fourrures et des bijoux. Mais rien de tout cela ne réussissait à lui assurer un tête-à-tête avec celle qu'il adorait. Varvara, sérieuse et même taciturne, gardait le silence, tandis qu'en désespoir de cause, il jouait au mariage durant les longues soirées d'hiver avec Madame Gondola. Un jour, une charrette de paysans entra dans la cour de sa seigneurie, et Varvara en descendit, couverte d'un voile épais. Le baron s'élança tout ravi pour recevoir cette visite imprévue. « Ah !» s'écria-t-il en baisant tendrement la main qui reposait froide comme un glaçon dans les siennes. « Vous me rendez le plus heureux des hommes !»« Ah, je ne sais si vous avez lieu de vous en réjouir, » répondit Varvara, « mais ce que j'ai sur le cœur me rend infiniment malheureuse. » Elle s'était assise dans le cabinet du baron et dénouait lentement son voile. Lorsqu'elle l'eut retiré, Bromilski vit qu'elle avait en effet les yeux rouges. « Mais que s'est-il passé, ma bien-aimée? Que souhaitez-vous de moi? Tout ce que je possède est à vous. »« Merci, vous êtes généreux et bon pour tout le monde, je suppose, sauf pour une seule personne, la femme que vous avez perdue. Le mal est sans remède. » Elle porta son mouchoir à son visage et sanglota. Le baron était consterné. « Mais m'expliquerez-vous, Varvara ? Il faut vous expliquer ? » murmura-t-elle en le regardant d'un air de tendre reproche. « Vous ne devinez pas ? Je serai bientôt mère, Lucien. » « Mais ce n'est pas un si grand malheur, » dit le baron en souriant avec embarras. Au fond, cette nouvelle le flattait singulièrement, il avait grandi d'un pouce. « Vous riez, » s'écria Varvara, « quand je pense à mourir. Mais ma chère belle, je suis prêt à faire tout ce que vous demanderez, j'assurerai l'avenir de l'enfant. » « Non, Lucien, ce ne serait pas assez, ma pauvreté est plus fière que vous ne croyez. L'amour m'a entraîné, c'est un crime, je le sais, aux yeux du monde. » Il pourrait être excusable au vôtre, mais vous me méprisez trop pour faire de moi votre femme. » Le baron parut de nouveau extrêmement embarrassé. Il n'avait pas pensé à la conclusion qui se présentait. « Mon refuge sera dans la mort. Oui, je me tuerai, moi et mon enfant. » Elle se leva hautaine, indignée, ses yeux étincelaient. Hé, s'écria Bromilski avec humeur, je ne demande qu'à réfléchir. Il ne s'agit plus d'une bagatelle. Réfléchir, mais vous n'avez pas réfléchi avant de déshonorer une fille innocente, qu'aveuglait une passion insensée. Ah, je me suis bien trompé. Aujourd'hui, je vous connais, je vous juge. Vous n'étiez pas digne de mon sacrifice. Adieu. « Varvara, je vous le conjure !» Elle était déjà très loin. Le baron courut après elle, sans bonnet, en robe de chambre, puis désespérant de l'atteindre, il fit atteler. Ce fut en vain, il ne la trouva nulle part. Éperdu, il arriva chez Madame Gondola. Varvara n'y était pas. Avait-elle donc réalisé ses menaces ? Quelle responsabilité terrible pesait sur lui ! Sous quel fardeau gémissait sa conscience ! Des heures s'écoulèrent. Il perdait la tête de plus en plus. Enfin l'infortuné rentra, et à sa vue, il fit tout près de défaillir comme un condamné qui reçoit sa grâce sous la potence. Elle ne lui accorda pas un regard, elle ne répondit pas un mot, lorsqu'il balbutia « Pardon, je suis en principe ennemi du mariage, mais Si ce que vous m'avez dit est vrai, attendons encore un peu. » Barbara vivait. N'ayant plus à redouter un péril pour elle, il se remettait à défendre, mais faiblement désormais, sa propre liberté. Pendant les semaines qui suivirent, il ne put obtenir d'être reçu. Enfin, il força la porte et trouva sa victime étendue sur un lit de repos, assez pâle et défaite. Une ample casabaïka l'enveloppait. Elle travaillait à un petit ouvrage de lingerie. « Que causez-vous donc là ? » demanda-t-il pour dire quelque chose. Barbara lui montra une brassière d'enfant, avec un geste dont l'éloquence acheva de triompher des hésitations de Blavatsky. Se tournant vers Madame Gondola, « Madame, dit-il, j'étais venu vous demander la main de votre fille. » « Prenez-la !» s'écria Madame Gondola avec son accent le plus pathétique. « Elle est à vous !» Les noces furent célébrées sans bruit et le baron emmena aussitôt sa nouvelle épouse dans la belle terre de Séparovché qu'il possédait aux environs de Kolomea. Madame Gondola les suivit jusqu'à cette dernière ville où elle s'installa aux frais de son gendre, cela va sans dire. L'amoureux baron ne la quittant plus une minute, il devint difficile pour Barbara de jouer plus longtemps la comédie. Elle se décida donc à un coup hardi peu à jour après son mariage. Elle attendit le soir Blavatsky dans un négligé qui décidait effrontément les lignes sveltes de sa taille aussi mince que jamais. Le baron ne l'avait vu depuis longtemps qu'empaqueté dans les plis menteurs d'une épaisse casabaïka. Il demeura stupéfait, regardant sa femme d'abord, puis le plancher et de nouveau sa femme. Celle-ci s'était jetée à ses pieds, les mains au ciel, en jurant que l'amour seul, poussé jusqu'au délire, lui avait dicté un subterfuge dont elle s'accusait humblement. Mais qu'elle saurait tout réparer en ne vivant que pour lui, comme sa servante, comme son esclave. Blavatsky, tout ému par la preuve de passion que lui donnait une femme si jeune et si belle, la releva aussitôt et la consola, plutôt qu'il ne lui fit des reproches. Elle l'avait enveloppée de ses charmes comme d'un filet, aussi difficile à secouer que la robe même de Nessus. À quelques semaines de là, il fit un testament par lequel il instituait son unique héritière. Barbara a eu toujours soin depuis de garder ce monument de son amour, comme elle nommait le testament, dans sa cassette, dont elle portait par tendresse sans doute la clé sur son cœur. Du reste, selon la promesse qu'elle avait faite, elle ne vivait que pour le baron, s'arrogeant de plus en plus toute l'administration de ses biens, s'emparant de ses papiers précieux et gardant sa caisse dans la chambre conjugale. « Tu es un petit dissipateur, lui disait-elle en l'embrassant. Si je te laissais faire, tu n'aurais plus bientôt qu'un bâton de mendiant. Tous tes parents et amis ont les mains dans les poches. Tu donnes trop à ta mère. Tu m'entoures d'un luxe de sultane et tu te refuses à toi-même les moindres fantaisies. » Il ne faut pas que cela soit. Moi, je prétends te gâter. » Et en effet, Blavatsky n'avait jamais joui autant de sa fortune jusque-là. Mille douceurs embellissaient sa vie. L'ameublement de la seigneurie fut renouvelé. La table était exquise. Car Varvara, comme beaucoup de femmes froides et profondément égoïstes, tenait à la bonne chair et préférait un pâté de perdrix ou un ragoût d'écrevisse au clair de lune et au parfum des fleurs. Blavatsky était persuadé qu'elle ne songeait qu'à lui rendre la vie agréable. Il s'émerveillait en même temps des économies qu'elle savait faire, sans qu'il en souffrît jamais. La maison était tenue avec un ordre rigoureux. Tout ce qui avait passé en gaspillage venait désormais grossir ses revenus, qui parurent augmenter considérablement dès la première année. Blavatsky se félicita d'abord d'avoir une femme aussi entendue aux choses du ménage. Il eût souhaité cependant que Barbara lui laissât un peu d'argent de poche. « De te traiter comme un écolier quand tout est à toi ? Mais ce serait trop ridicule !» s'écriait Barbara. « Je ne suis que ton caissier. » Mais le caissier tenait ferme les fonds qu'on lui avait confiés ou laissés prendre. Dès qu'une somme quelconque arrivait à la seigneurie, Barbara faisait une toilette capable de transporter un capucin en Don Juan et entourait son cher mari de câlinerie féline jusqu'à ce qu'il lui eût remis l'argent. Chaque fois, il se promettait solennellement d'être moins faible et parfois son héroïsme dura jusqu'au soir, mais jamais au-delà. Elle enroulait autour de son cou ses cheveux dénoués, semblables à ces cordes de soie avec lesquelles un sultan fait étrangler ses pachas et ses vizirs, et c'en était fait. Le vieux valet de chambre, qui était dans tous les secrets de son maître, disait aux gens de la maison, quand la baronne inaugurait de nouveaux atours, « Il faut que monsieur ait reçu beaucoup d'argent aujourd'hui, car madame est très décolletée. » Bromisky voulait-il faire une partie de whist ? Il devait s'adresser à sa femme, qui fronçait le sourcil et lui comptait avec répugnance quelques petites pièces. « Il serait absurde, disait-elle, de perdre davantage. » Et le baron lui baisait encore la main en signe de remerciement. Néanmoins, il finit par extorquer de l'argent à Barbara au moyen de prétextes dans le choix desquels il déployait un génie inventif qui le surprenait lui-même. Jamais, par exemple, il ne manquait d'aller lui-même à Coloméa pour remettre ou pour chercher des lettres. C'était l'occasion de voler à Barbara quelques kreutzers, et il en était heureux comme un enfant. Ou bien il s'agissait de billets de loterie qu'il n'avait pu décemment refuser. Un jour, il prétendit avoir trouvé en chemin un jeune homme pendu à un arbre. Il s'était empressé de couper la corde, mais le malheureux avait juré de revenir à son funeste dessein s'il ne parvenait pas à se procurer 5 ducats qu'il devait au père de sa fiancée. « Le mariage, la vie de ce pauvre garçon, était en jeu, » ajoutait Bromisky. « Oh, je n'ai pas pu résister au plaisir de le sauver. » Barbara fut ou feignit d'être dupe, mais elle ne tarda pas à découvrir que son mari avait fait quelques petites dettes. Elle les paya, puis manda le baron dans sa chambre, dont elle ferma la porte. Bromisky tremblait comme un meurtrier qu'on amène devant la preuve sanglante de son forfait. « N'as-tu pas honte d'emprunter ?» dit Barbara, « riche comme tu l'es. »« Moi, non, c'est un malentendu, va pas te fâcher. » Elle se posa devant le misérable et en le menaçant du doigt. « Allez, que cela ne t'arrive pas une seconde fois, » prononça-t-elle lentement. D'une voix si sévère et avec un tel regard que Bromisky recula jusqu'à ce qu'il fût collé au mur en balbutiant. « Mais tu me fais peur !» Barbara possédait une seconde clé du bureau de son mari. Aussitôt qu'il s'absentait, elle visitait tous les tiroirs afin de s'assurer qu'il n'avait pas fait de nouveau testament. De jour en jour, elle prenait plus d'ascendant sur lui. Elle finit par lui interdire d'aller jouer chez les voisins. « Mais qu'ils se réunissent plutôt ici une fois par semaine, » dit-elle. « Au moins de cette façon, tu ne risqueras rien, car nous aurons soin de ne jamais jouer ensemble. Quand tu perdras, je gagnerai. Quand je perdrai, tu gagneras. Comprends-tu ?» L'hôte ordinaire des Bromisky était, outre le curé, un certain Albin de Lindenthal, fils d'un ancien gouverneur du cercle et polonais enragé, comme le sont en Galicie tous les fils d'employés allemands. Ce Lindenthal, beau cavalier d'une trentaine d'années, faisait à la baronne une cour respectueuse mais décidée. Il lui apportait des violettes et des roses en plein hiver, il lui donnait les plus belles sérénades. Le jour de sa fête, il imagina une fête champêtre. les garçons et les filles de quatre villages réunis vinrent chanter et danser la kolomika autour d'un feu où rôtissait attaché à un jeune bouleau qui représentait la broche un bœuf tout entier, tandis qu'un jet d'eau improvisé faisait jaillir des flots d'eau-de-vie. Lindenthal invita la baronne pour une mazurka, et du haut du perron, Blavatsky regardait ravi en fumant sa pipe turque. À quelque temps de là, Barbara, toujours attentive auprès de son vieux mari, lui persuada que les longues veilles ne convenaient pas à sa santé. La partie de whist ne dura plus jusqu'à minuit. Le curé vint moins souvent. En revanche, Lindenthal était chaque soir assidu à la seigneurie, et quand le baron allait se reposer, il restait volontiers auprès de sa femme, lui tenant compagnie. Malgré tous les soins dont il était l'objet, Blavatsky tomba malade cet hiver-là, et au printemps, il mourut. Barbara le négligea beaucoup pendant sa maladie, car elle avait peur du spectacle même de la souffrance. Il la fit demander à la fin, mais la femme de chambre vint annoncer, avec toute l'emphase polonaise, que Madame la baronne était tombée sans connaissance, de sorte que Blavatsky expira sans lui avoir dit adieu, en murmurant sans cesse ces mots « Pauvre femme, pauvre femme !» À peine son fidèle valet de chambre lui eut-il fermé les yeux, que Barbara le fit porter hors de la maison dans la salle mortuaire. Puis, après que les fenêtres eurent été ouvertes une heure de suite et la chambre dûment parfumée, elle fit l'effort d'entrer pour fouiller tous les tiroirs. S'étant assurée qu'il ne renfermait rien de contraire à ses intérêts, elle mit le testament qu'elle avait toujours gardé dans le bureau du défunt. Blavatsky fut transporté avec pompe jusqu'au caveau de la famille. Sa veuve n'assista pas à la cérémonie. Le désespoir l'en empêcha. Lindenthal marchait vêtu de noir derrière le cercueil, suivi de la foule des serviteurs. Un homme de loi parut à Séparovce pour l'ouverture du testament. Barbara entrait en possession d'une fortune considérable. Elle n'avait que 22 ans. Barbara donna en ces circonstances à sa mère une première preuve d'amour filial. Elle prit Madame Gondola dans sa maison. Les mauvaises langues prétendirent que c'était en qualité de femme de charge. Jamais veuve ne porta le deuil avec plus de plaisir que Barbara, car chaque miroir lui répétait que les crêpes noires faisaient valoir son teint éblouissant. Du reste, elle se dédommagea d'une année de retraite forcée par les plaisirs de l'année qui suivit. M. Lindenthal avait demandé sa main. Elle répondit avec autant de grâce que de fermeté qu'elle voulait rester libre, mais qu'elle ne lui défendait pas d'embellir ses jours. Barbara n'était économe que de son propre argent. Elle acceptait sans scrupule les fêtes que Lindenthal lui donnait. Elle acceptait sa loge au théâtre de Lemberg, de même qu'elle lui permettait de la conduire au bal du gouverneur et des manias. Retournait-elle à Séparovce, toute la contrée était sur le qui-vive, car ce devait être le signal de quelques splendides réjouissances, et jamais l'attente de l'honnête noblesse campagnarde ne fut déçue. Aujourd'hui encore, ceux de ses membres qui ont survécu à cette époque racontent les féeries imaginées par la baronne Brominska. Elle monta une fois avec Lindenthal dans un traîneau qui représentait un ours blanc emporté par 6 chevaux noirs. Vêtue comme une tsarine, coiffée d'un kalpak élevé à plumes de héron, elle jetait à la foule enthousiaste des poignées de ducats qui ne sortaient pas de ses coffres. Sur l'étang gelé, on construisit au mois de janvier un petit palais de glace dont le portail était précédé de 2 dauphins crachant des flammes. Au carnaval, c'était des bals masqués, des cortèges où figurait Barbara en Vénus triomphante sur un char de forme antique. L'été suivant eurent lieu des régates tout à fait extraordinaires, les bateaux finissant par donner la chasse à une baleine de carton qui fut traînée ensuite à l'aide de harpons d'argent devant la reine de la fête. Sur une estrade se tenaient des musiciens en costume turc, et lorsque la nuit se répandit, l'étang et ses bords étincelèrent soudain de lanternes de couleur comme prélude au plus brillant des feux d'artifice. Dans le tourbillon d'une pareille vie, Barbara n'oubliait pas l'administration de ses terres. En même temps, elle augmentait ses revenus par d'habiles spéculations. Rien n'échappait à sa surveillance âpre et impitoyable. Le fermier de son moulin ne pouvait payer exactement, alors il avait demandé en vain un sursis. En vain, sa femme s'était jetée aux pieds de la baronne. Il fut accusé, condamné, et une commission vint de Coloméa pour procéder à l'exécution légale. Tout étant fini, ces messieurs furent priés de dîner à la seigneurie, selon un vieil usage auquel ne pouvait échapper la baronne, bien qu'elle le désapprouvât. Et quelle surprise pour Barbara, lorsque, entrant dans la salle à manger, elle se trouva en face de Marianne Janowski. Le jeune homme impressionnable rougit jusqu'aux yeux. La femme froide, prudente et hardie perdit elle-même quelque peu de contenance. Néanmoins, elle se remit promptement, lui tendit la main et s'écria « Oh, quel heureux hasard !» Puis elle força M. Janowski de s'asseoir auprès d'elle à table, et quand le dîner terminé et les convives prirent place à la table de jeu, Barbara appela Marianne auprès d'elle sur un petit divan turc à l'autre extrémité du salon. « Dites-moi avant tout, mon ami, demanda-t-elle avec aisance, pourquoi, puisque nous sommes si proches voisins, vous ne m'avez jamais rendu visite ?» « Je vous prie, madame la baronne, considérez ma position. »« Oui, vous êtes mariée, c'est vrai, » dit Barbara d'un ton moqueur. « Non, ce n'est pas seulement cela, » répondit Marianne avec calme. « Je suis encore greffier du tribunal de Coloméa. »« Mais je ne comprends pas. »« Vous ne comprenez pas que je suis pauvre et que vous êtes riche. » Vous ne comprenez pas qu'un honnête homme ne saurait être tenté par le rôle de parasite. Et je désire pourtant vous voir, dit la baronne, sa main blanche comme l'hermine, mollement posée sur celle de Marianne. Vous voir très souvent. Je ne vous ai pas oublié, moi, bien que vous paraissiez, ajouta-t-elle très bas, avoir effacé tout à fait de votre cœur certains souvenirs qui me sont chers. « Va, madame, au point de parole, interrompit Barbara, donnez-moi des preuves sérieuses de repentir et je verrai si je dois vous pardonner. » Elle lui pardonna car il revint souvent. Bien que l'honnêteté mît un sceau sur ses lèvres, il laissait lire dans ses yeux bien des choses qui, reliées et dorées sur tranches, se nomment de la poésie. Marianne était trop fière pour parler de ce qui reposait au plus profond de son âme, comme dans un sépulcre. Il employait donc tous les moyens pour ne pas se laisser entraîner à de périlleuses conversations. Il y avait, par exemple, un échiquier sur la petite table devant le divan turc. Marianne plaçait cet échiquier entre lui et Barbara, qui toutes les fois l'amenait à se rendre. « Mais comment peut-on jouer aussi mal ?» dit-elle un jour. « Il n'y a pas de plaisir à vous battre, mais faites donc attention. »« Mais je suis toute attention, » répliqua Marianne, « et c'est justement ce qui me trouble. »« Et à quoi faites-vous donc attention ? À vos mains ?» Ses mains étaient en effet fort belles, elle le savait, et sourit. Quand vous tenez suspendue au-dessus du damier cette main qui pourrait être un chef-d'œuvre de statuaire, continua le jeune homme, j'ai toujours l'impression qu'il vous serait aussi facile de toucher ma poitrine et de saisir mon cœur. Ah, et qu'en ferais-je? Une pelote à épingle, peut-être. Un jour, Marianne vint dans l'après-midi. Il faisait si beau que Barbara ne voulut pas le retenir à jouer et proposa une promenade. Elle mit son grand chapeau de paille, prit son ombrelle et s'en alla gaiement avec lui à travers les ondes mûrissantes des blés du côté du village d'Antoniovska. Le soleil brûlait, l'air était lourd à étouffer, de grands nuages blancs se gonflaient comme des voiles et montaient vite sans qu'on sentît le souffle qui les poussait en avant. Les oiseaux se taisaient, on n'entendait que le coassement des grenouilles et la chanson des cigales. Par un temps semblable, on cherche l'ombre. Barbara s'assit sur la lisière d'un verger. Marianne se tenait debout à quelques pas, la regardant mordiller un épi de blé. « Oh, je suis fatiguée, » dit-elle. « Cette chaleur est insupportable. »« Nous aurons de l'orage, » répliqua Marianne sans se rapprocher. « Croyez-vous ?» Comme le silence se prolongeait. « Dans pareil cas, » pensa la baronne, « la littérature est la meilleure ressource. » Et elle entama une comparaison entre les romans français et anglais à laquelle Marianne ne s'attendait guère. Il s'y jeta cependant un corps perdu pour sortir d'embarras. Et tous deux parlaient avec tant de feu qu'ils ne remarquaient pas ce qui se passait au ciel. De grosses gouttes de pluie les avertirent de gagner le village. Barbara cherchait en vain à s'abriter sous son ombrelle. Une forte grêle se mettait à des torrents d'eau. « Nous serons lapidés !» criait-elle. Marianne l'entraîna, éperdue jusqu'à la plus proche chaumière qui se cachait sous les pommiers et les buissons de syringa. Il en poussa la porte, et aussitôt une grosse poule mouchetée, effrayée de cette irruption, sauta sur la table avec des gloussements de détresse, puis de la table sur le poêle où elle continua de s'agiter. Ah, « les gens de la maison doivent être au champ, » dit la baronne, « et moi je suis trempée. Si l'on pouvait faire un peu de feu pour se sécher. » Marianne eut vite trouvé du bois résineux et quelques brins de fagots qui remplirent le poêle de pétillement pareils aux coups de fusil d'une bataille. Bon, la paysanne a sûrement des robes, dit-il. Ensuite, il faut que vous changiez de vêtements, sous peine de prendre la fièvre. Ouvrant une armoire, il en tira quelques hardes. Barbara, assise sur une caisse peinte, s'efforçait en vain d'ôter ses bottines. Le cuir était gonflé par l'humidité. Permettez-moi de vous aider, murmura Marianne. Et, pliant le genou, il défit les bottines, tira les bas, puis enveloppa les pieds nus, d'une beauté marmoréenne, dans les mouchoirs de la paysanne. Il n'y avait point de bas, bien entendu, mais des lourdes bottes du dimanche pouvaient servir, faute de mieux. Après s'être acquittée avec une réserve imperturbable de son office de femme de chambre, Marianne sortit, laissant la baronne se déshabiller. Elle apparut bientôt sur le seuil, vêtue d'un jupon bleu très court, d'une chemise chamarrée de broderie en laine rouge et d'un corset de drap noir, comme une belle de village de la petite Russie. Les femmes pensent à la parure dans toutes les situations. Elle avait donc entouré son cou de grains de corail et noué autour de sa tête un mouchoir jaune qui, cachant le front à demi, grandissait encore ses yeux. « Est-ce que je vous plaise ainsi ?» demanda-t-elle à Marianne. Perdu dans une muette admiration, il oublia de répondre. « Mais vous aussi, ajouta-t-elle, vous tremblez de froid. Allez changer d'habit. Ne m'entendez-vous pas ?»« Non, j'écoute. Mais cela ne suffit pas, il faut obéir. » Comme vous voudrez. » Après s'être déguisée en paysan galicien, Marianne fouilla toute la chaumière. « Oh, il n'y a de thé nulle part, » dit-il enfin, « je ne trouve que de l'eau de vie. » Donne-moi donc un peu, ordonna la baronne. Marianne versa de l'eau-de-vie. Elle y trempa ses lèvres, puis il lui rendit le verre, qu'il vida d'un trait. Tous deux tendirent une corde devant le poêle pour y sécher leurs habits. La tempête avait cessé. Il ne pleuvait plus. Les gouttes d'eau qui tremblaient sur les feuilles ressemblaient à des diamants. La lumière dorée du soleil ruisselait de nouveau sur toute la campagne, au-dessus de laquelle s'arrondissait l'arc-en-ciel. « Nous pouvons partir ?» dit Marianne. « Affablés comme nous le sommes ?» Un sourire effleura ses lèvres tandis qu'il regardait, pensif, le sol à ses pieds. « À quoi pensez-vous ? » « Oh, qu'il vaudrait mieux pour moi que vous fussiez toujours vêtu ainsi. »«
Et pourquoi ?»«
Parce que je pourrais dire à une paysanne bien des choses que je dois cacher à la baronne. »«
Et qu'est-ce que ce devoir-là qui vous l'impose ?» s'écria Varvara avec un regard étincelant de colère charmante.
« Je ne vous ai pas condamné à rester muet. C'est vous qui me gardez rancune. » Vous dites des absurdités. Si j'étais paysanne, vous ne m'aimeriez pas. Allez, allons-nous-en. Elle sortit de la chaumière d'un pas dégagé. Marianne suivait à quelque distance. Brusquement, elle s'arrêta et l'attendit.
Mais parlez donc, dit-elle, je vous le permets, ou plutôt je le veux. Avez-vous tout oublié? Vous paraissiez m'aimer autrefois, mais comment vous suis-je devenue indifférente?
Oh, si je l'expliquais, vous me comprendriez mal, peut-être. Je ne veux pas, avant toute chose, que vous me méprisiez.
Mais décidément, vous êtes fou. Je n'aurais jamais cru des hommes si romanesques. Où avez-vous pris tout cela, dans Werther?
Tout en faisant une moue de dédain, elle approchait ses lèvres du visage de Marianne, qui sentit la fraîcheur de son haleine et recula. Là-dessus, elle le toisa fièrement de bas en haut et secoua la tête comme pour dire « Attends, tu me demanderas à genoux ce que tu feins de dédaigner aujourd'hui. » Cette femme, malgré toute sa perspicacité, n'entendait rien aux scrupules de la conscience.
« Il m'aime pourtant, disait-elle rêveuse. Il me désire et il me fuit. »
Bromisky avait laissé une assez belle bibliothèque à laquelle Marianne empruntait parfois des livres. Un jour, Varvara, feuilletant certains volumes de Mickiewicz qu'il venait de rapporter, vit une marque autour de quatre vers qui peuvent se traduire ainsi. Mon âme, le souvenir habile en toi comme un vautour. Il dort pendant la tempête du sort et tu es sauve. Mais le repos et la confiance te sont-ils rendus, aussitôt tu saignes sous des serres impitoyables.
Pourquoi, demanda Varvara, pourquoi donc avoir marqué ce passage?
Marianne s'en défit. « Oh, c'est inutile de nier !» s'écria-t-elle. « Vous l'avez marqué, vous dis-je. De quel souvenir êtes-vous tourmenté? Qu'avez-vous perdu? À quoi bon saigner, vous débattre ?»«
Oh, il est donné au poète, » répondit Marianne d'une manière évasive, « de rendre dans la langue des anges la souffrance muette de l'homme. »«
Mais continuerez-vous à parler par énigme ?» interrompit Wavara avec emportement.
« Prétendez-vous, monsieur, vous jouer de moi ? Assez de face sentimentale. Si je vous plais comme autrefois, alors ces vers sont superflus. Je ne vous ai pas repoussé. Si vous ne tenez plus à moi, mais que signifient ces soupirs, ces allusions, ces aveux à demi étouffés qui agacent mes nerfs et qui commencent, entendez-vous, à m'ennuyer ?»
Marianne éclata enfin. « Faut-il vous dire que je vous aime ?
Vous ne pouvez pourtant pas vous attendre raisonnablement à ce que je le dise la première.
Mais où nous conduirait ma folie ? Vous êtes libre, mais moi,
Ah, nous y voici. Vous voudriez m'épouser, dit Barbara avec un rire moqueur. Mes richesses ne vous feraient pas honte si je vous offrais de les partager, de monter du rang de petit greffier à celui de maître de ces palancés. Marianne était devenue très pâle. Je vous l'avais bien dit que vous me comprendriez mal, répondit-il avec hauteur. Heureusement, je peux prouver par mes actes que... Il s'interrompit, salua et sortit tranquillement de la chambre. Barbara s'efforça en vain de le rappeler. Elle parut trop tard à la fenêtre ouverte, il dépassait déjà d'un pas rapide l'allée de peupliers, et il eut garde de se retourner pour voir flotter un mouchoir blanc. Il fut sourd à la voix qui prononçait son nom avec un mélange de prière et d'angoisse. Son orgueil avait triomphé encore une fois, mais le triomphe ne devait pas être de longue durée. Lorsque M. de Lindenthal se présenta ce soir-là chez la baronne, il ne fut pas reçu. Et le lendemain, Barbara se leva les yeux rouges. Si Marianne se fût traînée à ses genoux, elle l'eût repoussé peut-être. Les dédains du jeune homme irritaient son amour-propre. Elle pensait, comme Talleyrand, que chaque homme, de même que chaque chose, a son prix. Et le fait qu'un pauvre petit scribe eût considéré comme une offense l'hypothèse d'être enrichi par ses mains la laissait confondue. À tout prix, il fallait vaincre cette insolence. D'ailleurs, elle aimait Marianne autant qu'il lui était possible d'aimer, avec une sorte d'énergie semblable à de l'avidité. Elle le poursuivait désormais comme Don Juan put poursuivre une fille aux abois. Son unique pensée du matin au soir était de le rencontrer, et elle le rencontrait comme si sa volonté implacable eût forcé les événements. Chaque fois, elle le saluait affectueusement, elle s'arrêtait même dans l'espoir qu'il l'aborderait, et Marianne passait d'un air sombre. Une fois, sur la route impériale, à quelque distance de la ville, elle fit arrêter sa voiture et cria « Monsieur Jadowski, je vous en prie, un mot !» Marianne resta immobile, respirant avec effort. « Me prenez-vous donc pour un mendiant, noble dame ?» demanda-t-il. « Je ne demande pas l'aumône. Employez mieux votre argent. » Puis s'adressant à un groupe de fainéants déguenillés, boiteux, fortingants mais aveugles voyants qui encombraient le fossé, il reprit « Écoutez, pauvres gens, voici une dame compatissante qui veut vous donner beaucoup. Courez vite !» Là-dessus, il s'éloigna, laissant Barbara aux griffes de ses gueux qui saisissaient les rênes des chevaux, grimpaient sur les roues, tendaient leur bonnet à la portière en énumérant leur misère, comme fait le cœur d'une tragédie grecque. « En avant !» ordonna la baronne. « Impossible !» répondit le cocher. « Mais n'importe, allez que le cheval passe sur eux !» Le cocher fit un signe de la croix et ne bougea pas. Force fut bien Madame Bronwitzka de tirer sa bourse et de jeter son argent à cette horde presque menaçante qui lui souhaita 100 ans de vie et autant d'enfants. Cette désagréable aventure ne l'empêcha pas d'aborder quelques jours plus tard Marianne qui fumait un cigare devant le café du Colomea où se trouvaient aussi 5 officiers, un commissaire du cercle et une demi-douzaine de juifs lesquels ouvrirent de grands yeux et envièrent la bonne fortune du jeune greffier. Marianne désirait être un oiseau qui s'envole à l'approche du chat, mais la fortune lui ayant refusé des ailes, il jugea convenable de répondre en homme bien élevé. Barbara feignait de se promener sur la place. Elle lui parlait en même temps avec vivacité, sans obtenir de lui une seule réponse. Au bout de quelques minutes, Marianne regarda sa montre et prétexta une affaire pour la quitter. Une autre fois, elle vint à son bureau lui demander conseil pour un procès. Il s'excusa, disant qu'il n'était pas légiste. Mais vous êtes un homme d'esprit, et je n'ai confiance qu'en vous. Bon, consultez monsieur de Lidenthal. Elle se leva d'un air de reine outragée, mais le soir même, il la trouva sur son chemin. Elle lui saisit les mains avec des sanglots étouffés. Pardonnez-moi, le dépit m'a emporté trop loin. Oubliez les paroles indignes qui m'ont échappé. J'en suis trop puni, ayez pitié de moi. Faut-il tomber à genoux ici, dans la rue? Je ne vous en veux pas, balbutia Marian, dont le ressentiment devait céder à cet humble repentir. Eh bien, prouvez-le en m'accompagnant tout de suite jusque chez moi. Il voulut résister, mais la victoire fut pour la baronne. Dans cette calèche close qui roulait au milieu du silence et des ténèbres, il était son prisonnier. Barbara se jura de ne plus jamais lui rendre sa liberté. À Sepalovce, il fut reçu par M. de Lindenthal, qui, ne comptant pas sur la présence d'un tiers, vint au-devant de la voiture en bottes rouges et en robe de chambre turque. Marianne changea de couleur et voulut prendre congé. Barbara ne comprit pas d'abord. « Mais quelle bouche vous pique ? » demanda-t-elle. Tout à coup, elle éclata de rire. « Ah, jaloux, vous êtes jaloux. Et vous ne vouliez pas de moi. Eh bien, c'est votre punition. » Elle profitait pour parler ainsi de l'absent de Lidenthal, qui, tout confus de son côté, était allé faire une toilette moins intime. « Mais cet homme a des droits que je suis tout prêt à respecter, » riposta Marianne, désenchantée une fois de plus. « Taisez-vous, » interrompit Barbara, « je ne veux pas chez moi de scandale. Je vous jure de le congédier de la bonne manière. Faites-nous seulement une mine moins tragique, et vous verrez. » Sur ces entrefaites, une alliée précieuse vint au secours de Barbara. Ce fut Théophile, la femme de Marianne, bonne personne d'un esprit borné et de sentiments assez vulgaires. Les longues visites que son mari faisait à Sepalovze, et dont elle ne pouvait manquer d'être instruite, excitèrent sa jalousie. Au lieu d'avoir recours pour le retenir à des artifices ingénieux, elle s'emporta, elle le tourmenta par ses prières, ses reproches, ses larmes, ses attaques de nerfs, ses menaces, ses injures. Elle ouvrit les lettres qu'il recevait de Barbara. Elle le suivit à Sepalovce, le fit appeler par les valets, entama une scène de violence. Puis lorsqu'elle le vit en colère, tomba soudain à genoux, jurant, les mains levées au ciel, que personne ne pouvait l'aimer comme elle l'aimait. Tout cela n'était pas fait pour rallumer un amour éteint. Au lieu de ramener son mari, la pauvre femme le poussa dans les filets de sa rivale, comme si elle eût été complice de cette dernière. Et une brouille complète avec Lidenthal acheva d'assurer l'ascendant de Barbara sur Marianne Janowski. Le magnifique gentilhomme arriva un jour chez sa maîtresse, très rouge et très embarrassée. Après de longs préambules, il demanda timidement à la baronne de lui prêter un peu d'argent. Barbara se mit à jouer avec les franges du sofa où elle était assise, comme si elle eût réfléchi. Prêter de l'argent à ses amis est le moyen le plus sûr de perdre leur affection. Vous m'êtes encore trop cher, Albin. Je me garderai de vous prêter une obole. Mais, Barbara, puisqu'il faut vous le dire, je suis ruiné ou bien près de l'être, et si mes amis m'abandonnent... Je vous remercie de votre franchise, interrompit froidement la baronne. Si vous en êtes là, il serait inutile d'essayer de vous sauver, et je risquerais sans doute d'être entraîné dans votre malheur. « Mais vous oubliez, » fit observer Lidenthal avec amertume, « que tout ce que je possédais a été à vous bien longtemps. » Il est indigne d'un homme d'honneur de me le rappeler, dit Barbara, avec une superbe explosion de courroux. Après ce reproche, monsieur, je ne puis plus vous revoir.
Elle lui montrait la porte. Nidental sortit en chancelant. Soit, dit-il, je n'ai qu'à mourir.
Vous ne pouvez rien faire de mieux, répliqua la baronne avec une sombre ironie. N'avez-vous plus de pistolet ? Oh, je vous en prêterai un. Je vous donnerai même de la poudre à des balles. Vous voyez que je sers en service, quoi que vous en disiez.
Le malheureux la quitta tout à fait anéanti. Il ne s'est pas tué, cependant, que je sache. Peu de temps après cette rupture, Madame Gondelat rendit l'âme, humblement, sans bruit, comme elle avait vécu dans la maison de son opulente fille. Barbara surmonta cette fois l'horreur qu'elle avait des impressions désagréables. Elle vint sur le seuil de la chambre où agonisait la vieille dame, lui demander s'il y avait quelque chose qu'elle souhaitât, puis battit en retraite, satisfaite d'elle-même. Comme il lui fallait une complaisante, une subalterne de confiance à laquelle elle put livrer quelquefois ses secrets et une partie de ses intérêts, elle remplaça vite sa mère par une certaine Hermine, camériste, brune piquante, vraie beauté bohémienne, résolue en tout et adroite, qui se promit de dominer promptement sa maîtresse. Barbara sentait en elle un esprit supérieur et lui demandait son avis pour toute chose, sauf pour ce qui se concernait Marianne. Sur ce point, elle avait un projet arrêté, projet inouï, qui paraîtra incroyable à quiconque ignore nos mœurs galiciennes. Peut-être n'ai-je pas fait bien connaître jusqu'ici la femme de Marianne. La scène qui va suivre suffira cependant à donner une juste idée de son caractère. Barbara, profitant de l'heure où le greffier était à son bureau, fit arrêter son carrosse devant le pauvre logement des Janowski. « Je suis, dit-elle simplement, la baronne Bromiska, et je viens, madame, vous proposer un marché. »
« À bois ?» demanda Théophile atterré. Ses cheveux étaient en désordre sous un bonnet chiffonné et dans un négligé à peine propre. Elle ne paraissait ni jeune ni jolie, bien qu'elle fût en réalité l'une et l'autre.
« Oh, la chose est bien simple, » continua Barbara, qui, sans y être invitée, s'était jetée sur un vieux canapé à housse jadis blanche et promenait un regard de pitié sur cet intérieur qui trahissait un désordre plus insupportable sans doute à Marianne que la pire pauvreté.
« Voulez-vous me vendre, votre mari ?»«
Vous le vendre ?»«
Remarquez, madame, que la démarche que je fais est dans votre intérêt seul. »«
Votre mari m'aime, il m'appartient, personne ne peut le reprendre. » Mais les gens mal avisés aiment le bruit, dont, pour ma part, j'ai horreur. Je veux jouir en paix de ce que je possède, et puis il me plaît que Marianne voyage avec moi. Si je l'emmène, il abandonne son emploi, cela va sans dire. Je trouve donc loyal de vous offrir une somme annuelle égale à ses appointements.
Théophile s'emporta, comme lui fait à sa place toute autre femme. Puis elle pleura, elle sanglota, sans que Barbara l'interrompît. Lorsque ses larmes furent séchées par un nouvel accès de colère,
« Écoutez, dit la baronne, il faut vous décider vite. Maria ne doit rien savoir de cette affaire avant qu'elle soit conclue. Il ne donnerait jamais son consentement, mais il me suivra si je le veux. Et alors de quoi vivrez-vous ?»«
Oui, de quoi vivrai-je ? » murmura d'une voix sourde Madame Jaroska. Acceptez donc cette rente.
Mais s'il faut que je perde mon mari, mais vous l'avez perdu, il ne vous aime pas.
Eh bien, vous me le paierez cher. C'est un capital que j'exige, non pas une rente. Les femmes de votre sorte peuvent changer d'avis.
Quels sont les appointements ?
600 florins. Ben, je vous en donne 10 000. Oh non, non, cela ne suffit pas. Je veux vivre dans l'aisance si je suis malheureuse.
Barbara fronça le sourcil.
Mon mari vaut bien 30 000 florins.
Oh, il est sans prix, dit la baronne.
Mais je ne vous donnerai pas plus de 15 000 florins.
20 000.
Bon, pour vous prouver que je ne suis pas avare, 18 000, pas un florin de plus. La lutte dura longtemps.
Je garde mon mari en ce cas, dit Théophile.
Et comment vous y prendrez-vous?
Oh, je ferai valoir mes droits d'épouse, la loi me donnera raison.
Bon, va donc pour 20 000 florins.
Barbara sortit de sa poche un acte tout rédigé où la somme seule était en blanc.
Il me faut votre signature.
Madame Janowska alla chercher un entre-grillé couvert de poussière, en tira au bout d'une plume rouillée une mouche et un fil d'encre, signa l'acte et le reçut, puis, faute de sable, sécha l'écriture avec du poivre qui restait sur la table depuis le dernier dîner. Les 20 000 florins furent comptés, les deux parties contractantes se tendirent la main et, tandis que le carrosse de Barbara s'éloignait à grand bruit, Théophile se remit à pleurer, tout en cousant l'argent dans de petits sacs qu'elle cacha un peu partout. Lorsque Marianne sortit de son bureau, il aperçut la baronne qui, renversée sur les coussins de sa voiture découverte, lui faisait signe de la main.
« Tu es libre, » dit-elle gaiement. « Je t'emmène, nous dînerons ensemble aujourd'hui et toujours. »
« Mais que signifie ?»« Je t'expliquerai, monte d'abord. »
En route, et tandis que les chevaux dévoraient la distance au plus vite, Barbara partit d'un grand éclat de rire.
« Dis-moi avant tout, » demanda-t-elle, « si tu vaux 20 000 florins. »
Est-ce une plaisanterie?
Ouais, elle est de mauvais goût, j'en conviens, mais ta femme l'a signée.
Barbara lui tendit les deux papiers. Il lut, regarda la baronne, lut encore, froissa l'acte entre ses mains et haussa les épaules.
Croyez-vous qu'un homme se laisse vendre comme un cheval ou un chien?
Il me suffira de dire non.
Mais tu ne diras pas non, parce que tu m'aimes.
Autant que je te hais, répliqua Marianne farouche.
Enfant, mais ne désirais-tu pas de tout ton cœur pouvoir être à moi, comme je suis à toi seul? Nous verrons le monde ensemble, nous jouirons de la vie, tu abandonneras un travail ingrat.
Et s'il me manque, de quoi vivrai-je?
Mais vas-tu mêler d'ignobles questions d'argent à notre amour? Je te parle d'aller en Italie, à Paris, où tu voudras.
Marianne se tut. C'était une première lâcheté sans remède. Il consentait par ce silence à quelque chose de pire que la mort, l'infamie.
Oh, que je suis heureuse! S'écria étourdiment Barbara. Un bonheur comme le mien ne peut être acheté trop cher.
Même si on le paie 20 000 florins, demanda Marianne avec un dégoût profond. Il se sentait le plus vil des hommes et il s'y résignait.